السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بشفاء الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour un événement qui remplit nos cœurs de joie. Un ibadah, un acte d'adoration qu'on s'apprête à célébrer, qui sera profitable pour la foi, le iman de notre cher ami Rechad et de sa future épouse, comment elle s'appelle ? Ah, ça commence bien. Sa future épouse Hajra, qui sera également profitable pour ce qui est propre à la nature humaine au sein de chaque personne qu'Allah Rabbul Izzah a créé. Chers frères en islam, nous sommes extrêmement contents lorsqu'on se réunit pour célébrer un nikah. Parce que lorsqu'on célèbre un nikah, on va unir bi'idhnillah et on va unir avec le kalimatullah, avec les paroles d'Allah Azza wa Jal, deux personnes qui vont faire l'intention, qui vont se promettre de s'aimer, de s'apprécier mutuellement, de se respecter, mais également de faire un chemin, un cheminement vers Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on officie un nikah, on va également apporter du bonheur donc dans la vie de ces personnes, mais également du bonheur de la muhabba entre deux grandes familles. Nous avons deux grandes familles ce soir, toutes les familles sont grandes, mais patels, il y a à peu près partout, dans toute l'île, on en trouve. Les patels, mashallah, grande famille, locat, grande famille. Et un des maqsad, un des objectifs du nikah, c'est également d'apporter la muhabba entre les tribus. On appelait avant les qabilas, entre les clans, mais de nos jours, entre les familles, c'est un des objectifs du nikah. Quand on parle d'amour entre l'époux et l'épouse, quand on parle de muhabba entre les deux familles, on se rend compte que le terme amour, c'est vraiment le centre de gravité de notre dîne, de notre religion. Et ça, il faut toujours ramener. Il est important, on est à une époque où on se doit de redresser un petit peu la barre, d'équilibrer les discours et de montrer que notre religion, l'islam, est une religion de muhabba, une religion d'amour. Tout gravite autour de l'amour. L'amour pour Allah. Si une personne n'a pas dans son cœur un amour pour Allah, la personne n'est pas croyante. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des conditions de « j'atteste que Muhammad est le prophète d'Allah ». L'amour pour les parents, « birrul walidain ». Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que la personne dont les parents meurent sans qu'il soit satisfait de l'enfant, la personne ne peut pas accéder au « jannah ». Là, il trouve le « jannata ». Donc l'amour des parents, ça fait partie d'un des piliers également de notre religion. L'amour pour l'ensemble des Ahlul Tawhid, de l'ensemble des croyants, et on pourrait illustrer cette thèse à travers le hadith basique, et qui, subhanallah, c'est vraiment le hadith de l'humanisme. An tuhibba li akhika ma tuhibba li nafsik. Le vrai croyant, c'est celui qui aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui veut dire que, en aucun cas, je serai prêt à faire du tort à mon prochain. En aucun cas, je serai prêt à déshonorer mon prochain. En aucun cas, je serai prêt à porter atteinte à l'honneur de mon frère en islam, tout comme je n'aime pas qu'on porte atteinte à mon honneur, tout comme je n'aime pas qu'on m'agresse verbalement ou physiquement, ou qu'on me fait du tort. Ça, c'est sifatul mu'min. Ce sont là les qualités du croyant. Donc, l'amour pour Allah, pour son prophète, le muhabba pour les parents, le muhabba au sein de la mujtama, de la communauté, tout ça, ça fait partie des piliers de la religion. Le prophète, alayhi salat wa salam, arrivé à al-Madinatul Munawwara, il construit la mosquée juste après, il enchaîne en insistant sur la muhabba qui doit exister entre les gens de la Mecque qui viennent d'arriver, les muhajirines et les ansar, les gens de Madinatul Munawwara qui les accueillent. Le plus important, si nous voulons que la communauté avance, si nous voulons qu'une famille avance, si nous voulons qu'un couple avance, il faut qu'il y ait une muhabba sincère, une amitié, une entente, l'amour sincère sur des bases solides. Donc également, l'amour entre l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, c'est une condition sine qua non pour l'acceptation du mariage, pour que ce soit, incha'Allah, également, source de baraka. Donc, c'est un pilier du nikah, cet amour qui est en train de naître entre Rechad et sa future Hajra, qu'Allah les garde sous sa protection. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les savants disent, on connaît tous le hadith, le prophète, alayhi salat wa salam, a cité quatre qualités, quatre critères qu'on doit examiner lors d'une demande en mariage. Premier critère, c'est la religion. Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux dans ses prières? Est-ce que c'est quelqu'un de muttaqi, de salih,
ou ce n'est pas le cas. Ça, c'est le premier critère. Et parmi les trois autres critères, il y a la beauté physique. Ça, c'est important. Il y a également les conditions, hein, conditions sociales de la personne et également à quelle famille appartient la personne. Ce sont là les quatre critères que le croyant ou la croyante se doit d'analyser lorsqu'il reçoit ou elle reçoit une demande en mariage. Et les savants disent, voyez, que le nikah, c'est une question d'acceptation. C'est-à-dire que c'est un choix. Il n'y a rien qui est obligé de le mariage. Si le nikah, le mariage, était un acte imposé par les parents, dans ce cas, notre prophète alayhi salat wa salam ne nous aurait pas demandé d'analyser ces quatre critères. Preuve que lorsque je dis oui, j'accepte cette personne en mariage, c'est que j'ai retrouvé en elle ses qualités et que donc mon cœur est satisfait et qu'il y a un amour qui est en train de naître entre moi et cette personne. Donc, Richard, l'objectif c'est de tirer un sourire, d'accord? Pour l'instant, tu n'as pas vraiment souri. Est-ce que tu aimes vraiment ta future Hajra? Oui. Comment tu es venu à Saint-Denis depuis Saint-Paul? Tu as fait la montagne. Je pense que c'est déjà là une preuve d'amour. Faire la route de la montagne pour arriver à Saint-Denis pour un mariage, je pense que ça s'inscrit dans la lignée des Roméo et Juliette. On aura Rechad et Hajra. Rechad qui parcourut la montagne, je ne dis pas deux chameaux, mais qui parcourut la montagne pour rejoindre sa chère Hajra. C'est vraiment, mashallah, romantique. Maintenant, permets-moi de te poser une question. Une question, hein, c'est entre moi et toi. Si le match Chelsea-Paris était ce soir, est-ce que tu aurais décalé la date du mariage? Juste pour tester. Non. Tu aurais gardé le nikah ce soir même. Mashallah. On voulait entendre ça de la bouche d'un jeune pour prouver vraiment est-ce qu'il y a un muhabba sincère. Et apparemment, il y est. Et je vois toutes ses dents en haut. Ça veut dire que maintenant, il est tranquille. Parce qu'on va se marier. Tu vas te marier quand même, mashallah. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut apprécier ce moment. En général, on se marie une seule fois. Inch'Allah, tu te marieras une seule fois dans ta vie. Qu'Allah Rabbul Izzah. Mais beaucoup de baraka, beaucoup de muhabba dans cette union. Mais beaucoup de gens disent que je me suis marié, mais j'étais tellement stressé, c'est parti tellement vite que je me suis pas rendu compte que, voilà, j'ai juste dit oui, j'accepte, on a distribué les gâteaux, on est parti, on a enchaîné et la vie a commencé. Moi, j'aimerais que tu apprécies. Et pour apprécier, vous commencez par souffler, sourire, enjoy maintenant, tu es avec nous, alhamdulillah. Ce qui est important quand on parle d'amour, on a utilisé un terme tout à l'heure, l'amour sincère sur des bases solides. L'amour repose sur deux piliers. Les deux piliers, c'est l'amour pour Allah, Azza wa Jal, et ensuite l'amour, la muhabba qu'il y aura entre l'homme et la femme. Si un des deux piliers est fragilisé, il n'aura pas de baraka de le mariage. Même si on a énormément de moyens, même si on est quelqu'un d'extrêmement gentil avec subhanallah, le meilleur des comportements possibles envers l'épouse et vice versa, à partir du moment où on prendra le premier cas de figure, imaginez des personnes qui s'aiment, des personnes qui, mashallah, ont le meilleur des comportements mutuels, mais qui n'ont pas la pratique de la religion, qui n'ont aucun souci pour le dîn, même si d'apparence ce couple paraît heureux, mais dans le fond, c'est un couple qui est en danger. C'est un couple qui est en danger parce que ce couple risque d'avoir, de connaître des frictions, des conflits, des tiraillements, parfois pour des détails, pour des points qui sont vraiment sans importance. Cela parce que la personne qui n'a pas de pratique de la religion, c'est quelqu'un qui n'aura pas appris le terme sobre, le terme patience dans les relations conjugales. On peut être patient dans le milieu du travail, on peut être patient avec ses parents, on peut être patient avec ses amis et ainsi de suite, mais être patient avec son épouse et vice versa, que l'épouse soit patient et compatissant envers son mari, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre dans notre religion. Et la meilleure façon de l'apprendre, c'est d'étudier la sira, la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il se comporte avec Aïcha radiallahu anha, avec Khadija radiallahu anha, pour voir vraiment quelle est la patience requise de la part dans l'islam pour l'homme et la femme. Et le fait d'être patient, comme l'islam nous demande, ça évite les conflits. Subhanallah, il y a des fois où des couples se séparent, ou soit le talar, ou alors momentanément, ou alors ils ont des tiraillements pour des points vraiment infimes, des détails. Et lorsqu'on analyse les points qui posent problème, on se rend compte qu'il aurait suffi d'être un peu sabir, de faire preuve de patience, de faire preuve de concession, comme le prophète alayhi salat wa sallam nous l'a enseigné, pour que la muhabba, elle perdure. Également, un couple qui ne pratique pas, qui n'a pas d'importance, qui ne donne pas l'importance nécessaire pour la taqwa, pour la pratique de la religion, c'est un couple qui risque d'être, wallah musta'an, sous l'effet des waswasa de shaitan. L'insufflation des shaitan qui en permanence va mettre des mauvaises pensées dans le cœur de l'homme, ou alors plus souvent dans le cœur de la femme. Une femme qui voit son mari arriver en retard ou qui parle au téléphone, si elle n'a pas une tarbiya imaniya, une éducation spirituelle, comme c'était le cas de Aisha radiallahu anha, Khadija radiallahu anha, immédiatement va naître en elle des doutes. Et lorsque les doutes s'installent dans le cœur du mari ou de la femme, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Et cette absence de confiance, elle vient des waswasa, des insufflations de shaytan. Et shaytan, alayhi la'natullah, il a l'emprise sur les cœurs faibles, sur les cœurs rafil, sur les cœurs insouciants, les cœurs qui ne pensent pas à Allah azza wa jal, les cœurs qui ont grandi sans les notions de base concernant le muhabba, la patience au sein du couple. Également, un couple qui s'aime en apparence, mais qui n'a pas de pratique de la religion, c'est un couple qui risque parfois de se heurter aux problèmes entre les belles familles. Là, on essaie de dresser un petit peu le tableau classique, malheureusement, des différentes problématiques qui naissent dans les couples. En général, ce sont ces raisons. Une des raisons qui reviennent le plus souvent, c'est les problèmes entre les belles-mères, d'accord? Les problèmes entre belles familles. Mais, subhanallah, une personne qui a étudié le dîn, une personne qui pratique, saura que quelles que soient les paroles que ma mère a pu tenir à mon encontre, ça reste ma maman, et le respect reste dans le cœur. Le respect se traduit par les paroles, le respect se traduit par le gestuel. Alors qu'une personne qui n'a pas d'éducation spirituelle, à la moindre parole qui risque de le porter atteinte psychologiquement, qui risque de le vexer, la personne va se remonter contre ses parents. Et à partir du moment où on n'a plus les doigts de nos parents, assurément, là-dessus, il n'y a pas de divergence d'opinion. Si on n'a pas les doigts des parents, sans le moindre doute, on n'aura aucun succès ni dans la vie familiale, ni dans notre vie de ce dunya, ni dans le akhir. Alors que la personne qui pratique la religion, il sait que c'est un pilier de dîn que de respecter ses parents. Et Allah Azza wa Jal a cité birrul walidain immédiatement après l'ordre de tawhid wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah Rabbul Izzah a décrété qu'on adore personne d'autre à part lui. Immédiatement après de le verser, wa bil walidain ihsana, que vous comportiez correctement avec vos parents. Donc ça fait partie également des principes essentiels que le couple se doit d'apprendre dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Également, un couple qui n'a pas de pratique de la religion risque de connaître quelques tiraillements lorsqu'il y aura des problèmes financiers. Et nous vivons une période difficile de crise. Apparemment, l'euro n'a jamais été aussi bas. Apparemment, il y a des gens qui vont en Umrah. L'euro est descendu à 3,90. Ça n'a jamais atteint ce seuil dans l'histoire de cette monnaie. Bref, nous vivons une époque où il y a des problèmes financiers. Les problèmes, la crise, elle va perdurer. Il ne faudrait surtout pas que s'il y a un gouffre financier ou des problèmes financiers, donc à la fin du mois, qu'il y ait une discorde entre l'homme et la femme. Ça, ce serait le pire des scénarios. Parce que ce genre de cas de figure, Wallah Musta'an, risque de perdurer d'année en année. Donc, une personne qui a reçu l'éducation spirituelle, la personne qui a le cœur connecté avec Allah Azza wa Jal, il a déjà une conception du dunya. Ça, c'est important. De développer une conception. Je comprends c'est quoi les biens de ce monde. C'est quoi l'argent? Qu'est-ce que l'argent apporte? Qu'est-ce que l'argent n'apporte pas? Que cela vient d'Allah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, et qu'on doit rechercher la baraka, la bénédiction, et non pas la quantité. Ce couple qui pratique la religion, qui a ses convictions, qui développe une confiance en Allah Azza wa Jal, ben ils ne vont pas se chamailler si au 25 du mois, il reste que 50 euros de le compte en banque. Parce qu'ils vont s'en remettre à Allah Azza wa Jal, ils vont se remettre en question, ils vont se dire que très certainement, s'il n'y a pas baraka dans nos finances, c'est parce que nous ne donnons pas suffisamment de sadaqa. On va pas dire tout de suite parce que tu dépenses trop, ou l'autre va dire que c'est toi qui as acheté telle chose qui est inutile. Très souvent, les problèmes dans les couples naissent des problèmes financiers. Mais on se remet en question, on se dit que certainement si on donnait plus de sadaqa, au début du mois, quand mashallah on a notre salaire, on donne sadaqa, on donne à manger aux gens, cela nous aurait apporté baraka et on n'aurait pas connu telle situation. Vous voyez le décalage qu'il peut y avoir entre un couple qui pratique la religion et un couple qui n'a aucune connaissance de base concernant l'islam. Également, un couple qui n'a pas de pratique du dîn, c'est une maison, c'est un foyer où il n'y aura pas de baraka. Il n'y aura pas de bénédiction. La rahmat d'Allah ne descendra pas. Si dans un foyer, personne ne prie, ne fait la salah. Si dans un foyer, le Coran n'est pas lu, même pas un verset par jour. Si dans un foyer, il n'y a pas un instant où il y a un peu de dhikrullah, comment voulez-vous que la rahmat d'Allah descende dans cette maison? Comment voulez-vous que la sakina, la tranquillité, descende dans les cœurs? Et comment voulez-vous maintenant que Shaytan ne prenne pas cette demeure comme sa propre maison? Également, les couples qui ne pratiquent pas le dîn, ce sont les premiers couples à être touchés par les problèmes de sihr, les problèmes de sorcellerie. Mufti Yahya avait fait un discours brillant sur la sorcellerie le vendredi dernier. Et justement, quand Shaytan alayhi la'natullah perçoit une faiblesse spirituelle, un manquement dans la pratique religieuse tant du côté du mari que du côté de la femme, c'est là que ses efforts, c'est là que son travail portera ses fruits. Alors que la personne qui reste ferme dans ses a'mal, dans ses salats, dans ses somms, dans ses dhikrullah, dans ses tahajjud, dans ses doigts, dans ses isti'adah, dans ses doigts de protection également, c'est des gens qui, incha'Allah Azza wa Jal, seront protégés contre les wasawis de shaytan, mais également contre les sahara, contre la sorcellerie et toutes les mauvaises choses que les gens peuvent essayer de faire contre la personne. On a essayé de dresser un tableau de 5 ou 6 causes de rupture ou de discorde dans le couple et prouver et montrer que lorsqu'il y a la pratique de la religion, ben ces problèmes-là, en fait, ils ne se posent pas. Ou alors, ils sont évacués de façon extrêmement facile parce que la présence de iman, la pratique de la religion, c'est la solution pour notre vie dans ce dunya, pour la réussite dans la vie de ce monde, mais également la solution et la garantie de réussite dans la vie du akhira, de l'au-delà. Tu fais inshallah l'intention avec ta future épouse de développer l'amour pour Allah jour après jour. Dis inshallah. Deuxième point, deuxième pilier, on a vu que on a besoin des deux. L'amour pour Allah, on doit le travailler au quotidien, mais on a besoin également de l'amour, de la muhabba au sein du couple. Maintenant, imaginez un couple, mashallah, extrêmement religieux, qui pratiquent à fond, alhamdoulilah, mais ils n'ont pas assez d'échanges amicaux. Il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de muhabba apparent dans le couple. On va dire que là également, c'est un cas de figure qui est déséquilibré. Il y avait un sahaba qui était frère de Abu Darda, radiallahu anhu, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avait décrété les gens de la Mecque et de Médine comme frères. Il avait vu qu'Abu Darda, radiallahu anhu, ne donnait strict aucune importance à son épouse. Et du coup, sa femme ne se parait jamais pour son mari. Et il a posé la question à l'épouse d'Abu Darda, radiallahu anhu. Elle a répondu que depuis que mon mari connaît l'islam, ben, il passe ses nuits en prière, il passe ses journées en état de saum, en état de rosa, et donc, je n'existe quasiment plus. Il a construit sa relation avec son Seigneur, et du coup, moi, je n'ai plus d'importance. Mais elle ne se plaignait pas, parce qu'elle aussi, en tant que femme de sahaba, elle pratiquait à fond le dîn. Et le sahaba a immédiatement rectifié. Il a convoqué Abu Darda, il a expliqué, c'est une parole en or. Il dit que sache ô Abu Darda qu'Allah Rabbul Izzah nous a créé, en ce sens, avec des besoins. Et que sache qu'on a des devoirs, mais également des besoins. Wa inna li rabbika 'alayka haqqan, Allah a un droit sur chaque serviteur, ton corps, wa inna li nafsika 'alayka haqqan, ton corps a un droit sur toi. Il a cité 4 ou 5 points, il a dit wa inna li ahlika 'alayka haqqan, et ta femme également, ta famille a un droit sur toi. Et en conclusion, fa'ati kulli dhi haqqin haqqan, donne à chacun son droit, parce qu'on recherche toujours l'équilibre. On recherche toujours le juste milieu dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, dans la vie sentimentale. Donc voilà donc, Rishad, les deux piliers qu'Inch'Allah tu te dois de travailler pour avoir un épanouissement tant dans ta vie spirituelle avec ta future, mais également dans la vie sentimentale. Maintenant, juste quelques pistes en 5 minutes, Inch'Allah. Quelques conseils pour travailler sa relation avec Allah Azza wa Jal. Si tu connais quelques versets du Coran par cœur, quitte à les mémoriser, je te donne 3 versets. 3 versets, c'est pas un tavis, hein, je ne donne pas de tavis, mais 3 versets à mémoriser, à méditer et à essayer de mettre en pratique. Le premier verset, c'est très connu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِي لِيَعْبُدُونَ. Ce verset, Allah Rabbul Izzah dit, je n'ai créé les djinns et les ins que pour mon adoration. C'est-à-dire le mu'min qui garde ce verset, même si on ne le mémorise pas, mais on connaît le sens en français, le croyant qui en permanence va penser à ce verset, il se remet en question à chaque fois. Lorsqu'il a l'impression qu'il est en train de se perdre dans les plaisirs de ce monde, lorsqu'il a l'impression qu'il est en train de gaspiller les années de sa vie dans différents projets qui ne sont pas des projets qui vont le rapprocher d'Allah Azza wa Jal, par le biais de ce verset, il arrive, bi'idhnillah, à se ressaisir et à se reconcentrer sur l'objectif principal. J'ai été créé pour Allah. J'appartiens à Allah. L'objectif de ma création, c'est que ce front se prosterne devant Allah Azza wa Jal. Que cette langue fasse le zikrullah. Que ses yeux soient contrôlés pour Allah. Que ses oreilles soient contrôlées pour Allah par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le premier verset que chaque mu'min se doit de mémoriser, de comprendre le sens et d'essayer de le travailler au quotidien. Le deuxième verset, on va dire que ce sont là 3 cadeaux qu'on te donne ce soir. Le deuxième verset, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Commentaire, les mufassirin disent que dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à l'être humain de faire l'adoration d'Allah jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne et reprend son âme. Ça, c'est la limite. Il y a beaucoup de gens qui se disent que on est Mashallah, de bons croyants durant le mois de Ramadan, ou lorsqu'on va au Hajj, ou lorsque je veux Umrah, là je me donne à fond, je reste au Haram depuis le Asr, le Maghrib, Isha, je rentre à l'hôtel et puis je retourne à 3h du matin jusqu'à le Shuruq. Il y a des gens qui, Mashallah, lorsqu'ils vont en Terre Sainte, ils font énormément d'efforts, c'est admirable. Mais une fois retournés dans la vie, entre guillemets, normale, se disent que bon, il y a une vie spirituelle, il y a une frontière, et puis il y a la vie de le commerce professionnel ou familial. Là, wallah. Ne jamais oublier que l'adoration d'Allah doit se faire de façon régulière avec istiqama. D'où le verset, l'adoration d'Allah doit être faite jusqu'à ce que Malik al-Maut vient et reprend notre âme. Donc quand on sent des faiblesses, soit personnelles, soit au sein du couple, dans la pratique de la religion, on se dit qu'on a un rendez-vous avec Allah et je me dois de meubler le temps qu'Allah m'a accordé dans les bonnes œuvres afin que lorsque l'ange va reprendre Malik al-Maut, va reprendre mon âme, ben je suis toujours en état de ibada, en état d'adoration. Et le troisième verset, c'est le moins joyeux, on pourrait dire, c'est que le nafsin dha'iqatul maut, ne jamais oublier qu'on a un rendez-vous avec Allah. Et avec ce verset, on pourrait enchaîner, autre verset, thumma ilayhi turja'un. Ensuite, nous retournons près d'Allah. Ne jamais oublier qu'on a un jour un rendez-vous avec l'ange de la mort, mais également un rendez-vous avec Allah. Honnêtement, le croyant qui garde uniquement ces trois versets à l'esprit, on pourrait dire même que sur le plan spirituel, ça lui serait plus profitable que de mémoriser des siparas et des siparas sans rien comprendre. Celui qui connaît ces trois versets et qui comprend le sens et qui organise sa vie, et j'exagère pas, hein, il organise sa vie en fonction du contenu de ces versets, wallahi al-azim, je jure par Allah que c'est quelqu'un qui sera toujours dans le sirat al-mustaqim, dans le droit chemin, parce qu'il saura toujours faire les bons choix. Également, faites la résolution dès maintenant d'être ferme dans les cinq salats. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des fois où waswasa de shaitan, les insufflations du diable disent que voilà, on est en lune de miel. On est en voyage de noces. Donc, comme on est en voyage de noces, on lève un peu les pieds. On fera le kaza plus tard. Même si parfois ce sont des gens qui, mashallah, ils ont l'habitude de faire les cinq salats. Mais c'est comme si qu'on se dit que quand on est en voyage de noces, il n'y a pas vraiment nécessité de faire les prières à l'heure. D'accord? On va donner plutôt priorité à la muhabba, les chants, la découverte mutuelle, là, wallah. On doit essayer de bloquer les insufflations de shaitan dès le début. Parce que shaitan, il veut enlever le quota de baraka de le couple. Et la meilleure façon d'apporter la baraka, la bénédiction de le couple, c'est par l'accomplissement des prières. Maintenant, si on place la barre un peu plus haut, subhanallah, imaginez ce couple, peut-être c'est Richard ce soir, imaginez ce couple qui, à la première nuit de mariage, le mari réveille son épouse pour faire le qiyam ou le tahajjud. Mais imaginez, subhanallah, j'ai entendu quelqu'un rigoler, mais c'est possible, imaginez le baraka, la porte de bénédiction que ce mari va ouvrir pour les années qu'il va vivre avec sa femme, si la première nuit, l'homme et la femme se réveillent ensemble et ils font le qiyam al-layl, ils font le tahajjud et dans le dernier tiers de la nuit, ils lèvent les mains tous les deux, ils demandent à Allah Azza wa Jal de les protéger contre toutes les mauvaises choses et de leur accorder l'amour le plus sincère, assurément. Ce sera là un doua accepté parce que c'est un moment où les douas sont acceptés, également parce que ce sera un ibada qui sera fait avec un effort particulier et ça c'est apprécié par Allah Azza wa Jal. Par la suite, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, lorsque la vie de couple commence à prendre forme, à s'installer, trouver une certaine stabilité, le mari doit toujours faire attention. Lorsque le mari quitte la maison pour aller à la masjid faire la salah, il doit s'assurer que son épouse, elle prie à la maison, à l'heure. Que chaque personne de la maison accomplit la salah. Ce serait inconscient de venir à la mosquée au premier sens et on laisse madame devant les feuilletons brésiliens ou en train de regarder n'importe quoi et quand on retourne elle est toujours devant la télé et quand on va se coucher ben elle vient dormir et qu'elle n'a pas fait la salat al-isha. Elle sera questionnée à ce propos le jour de Qiyam, mais moi en tant que mari je serai le premier malheureusement à être questionné. Donc très important qu'on soit assidu, qu'on se surveille, qu'on s'encourage mutuellement à accomplir la salat. Et le message que tu feras passer à ton épouse, important, que lorsque c'est l'heure de la prière en jamaat, la femme se doit de dire à son mari, maintenant c'est l'heure de la salat à la mosquée. Ne pas dire à son mari, non, reste un petit peu encore, on n'a pas passé de temps ensemble, là wallah. Fermez les portes de shaitan. Faire en sorte que le mari, il va à la masjid, quand il va retourner de la masjid, il va amener de la bénédiction, ses doigts seront acceptés, ce sera source de bonheur pour le couple. Également, faites l'intention de jeûner, ça c'est important. Dans la mesure du possible, un jeune couple qui démarre ses premiers jours, ses premières semaines, en jeûnant les lundis, le jeudi, subhanallah. c'est un couple qui va connaître baraka, bénédiction dans toute sa vie, sans le moindre doute. Donner un temps pour apprendre le Coran. C'est quoi apprendre le Coran? Les gens vont dire qu'apprendre le Coran, on a appris quand on était à la madrasa, je sais lire. Apprendre le Coran, c'est que l'homme et la femme s'assoient autour d'un Coran avec une traduction et qu'ils essaient de se familiariser avec le contenu du Coran. Imaginez un couple qui donne du temps pour la parole d'Allah régulièrement. Quel baraka! Tout ça, ce sont des recettes du bonheur spirituel. Et quand il y a bonheur spirituel, il y aura l'équilibre psychologique, il y aura le bonheur avec le grand B, Inch'Allah, au sein du couple. Il faut que dans le couple également, on tire un temps pour le zikrullah. On se dit que voilà, après shuruq, on se retrouve dans une pièce, dans tel endroit, et chacun il prend son tasbih, son sabbaha, ou alors avec les doigts, et on va faire istighfar, on va lire le subhanallah, alhamdulillah, akbar. Ça va apporter baraka. Parfois, on se dit que pour avoir le bonheur, il faut avoir du matériel. Pour être heureux, il faut l'écran plasma 2 mètres sur 2 mètres, il faut la machine Nespresso, il faut le lit tempura, il faut telle chose. Wallah musta'an, très souvent, on se dit que la recette du bonheur, c'est le matériel. Abadan wallah. Jamais de la vie. La recette du bonheur, c'est faire en sorte que le cœur est épanoui. Que le cœur trouve une connexion avec Allah Azza wa Jal. Quand le cœur trouve une connexion avec Allah Azza wa Jal, et que de l'autre côté, l'épouse également, son cœur trouve une connexion avec Allah Azza wa Jal, assurément, il y aura une fusion. La fusion, l'amour entre les conjoints, mais également fusion dans l'amour pour Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, faites l'intention de progresser, de faire ces a'mal pour vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Également, les relations avec les parents. Tes parents sont là. Mashallah. Et ton épouse également, Amin Lokat, d'accord, madame. Alhamdulillah. Très souvent, quand un jeune couple se forme, ils se disent qu'on a besoin de se donner du temps mutuellement. Et pendant quelques temps, pendant un laps de temps, on zappe un peu les parents. Non, faut jamais faire cette erreur. Faut pas se dire que maintenant on a une vie commune, on a besoin de se lancer un petit peu, on a besoin de créer, de faire son nid. On n'a pas oublié les parents. Abadan wallah. Le doua d'un papa est accepté par Allah Azza wa Jalla. Le Jannah se trouve sous le pied de la maman. N'oubliez jamais. On veut la baraka, le bonheur de le couple. Ce bonheur passe par l'amour pour Allah, sans le moindre doute. Ce bonheur passe également par les doua, par la bénédiction de la maman et également du papa. Également, prendre du temps, également, si on a des personnes âgées, grand-père, grand-mère, faire en sorte de faire leur khidma. Tout ça, on va pas citer toutes les bonnes actions qu'on peut faire, mais tout ça, on n'imagine pas. Ce sont des sources de baraka, de bénédiction dans la vie de couple. Et puis ensuite, pour la muhabba entre l'homme et la femme, donc ça, je pense que les jeunes, ils ont un peu plus de connaissances que nous là-dessus. J'aimerais juste citer un exemple. Quand le prophète, alayhi salat, l'exemple est connu, c'est une histoire qu'on a déjà racontée au moins 6 fois sur ce mimbar, mais toi, tu étais pas là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le wahi, la première révélation, quel âge il avait? 40 ans, barakallah fik. Il reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam, il est effrayé. Il va voir immédiatement son épouse Khadija radiallahu anha. Et son épouse Khadija radiallahu anha va lui donner le bon mashwara, va lui donner les bons conseils et va l'amener voir Waraqa bin Nawfal, un cousin qui connaissait les livres anciens et qui va lui donner l'interprétation que c'est lui le futur prophète et que c'était l'ange Jibril. Ce qu'on veut retenir, ce que les savants mettent en avant, c'est la fusion qu'il y avait entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiallahu anha. Il y avait une relation de confiance. C'était un couple où on pouvait se confier. C'était un couple où l'homme pouvait s'appuyer sur les épaules de sa femme et vice-versa. Lorsqu'un des deux connaît un moment de faiblesse, il sait que l'épouse sera là ou l'épouse sera là pour le réconforter, pour le ramener, pour le recadrer. Ça, c'est une relation extrêmement importante qui va naître à partir du moment où il y aura une relation de confiance mutuelle. Mais la phase qui précède la confiance mutuelle, c'est le respect. Lorsque le mari respecte sa femme et que la femme respecte son mari, là il y aura une relation de confiance, le courant va passer et là, alhamdoulilah, il y aura une fusion de l'esprit également. Qu'Allah Rabbul Izzah vous accorde ce bonheur. Et permets-moi, Richard, juste de te citer juste quelques habitudes du prophète alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam appelait sa femme toujours par un nom gâté, un petit nom. Au lieu de dire Ya Aisha, il disait Ya Aish, ou alors Ya Habibi, oh bien-aimé. C'est très important. De la façon de s'interpeller, il faut qu'on voit l'amour dans les premiers mots qui sortent de notre bouche pour parler à notre épouse ou alors pour la femme qui parle à son mari. Le prophète alayhi salat wa salam avait des propos toujours agréables avec sa femme. Hadith magnifique. Inna akmal al mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur des comportements. jusqu'à maintenant, on connaît ça, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wa salam dit « Wa khiyarukum, khiyarukum linisaikum ». Sachez aux musulmans que les meilleurs croyants, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement avec leur famille, avec femme et enfants. Et notre prophète alayhi salatu wa salam est un ouswa, est un modèle pour nous également dans sa relation, dans ses relations avec sa femme et ses enfants. Dernier point, on va conclure. Dans le couple, il est essentiel de donner du temps à son prochain. Le mari se doit de donner du temps à sa femme et vice versa. Le prophète alayhi salatu wa salam, une fois, il y a eu un échange avec Aïcha radiallahu anha, qui lui a raconté une histoire qui était très longue. Dans les kutub de Bukhari, le hadith fait deux pages et demie. Aïcha a raconté, 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 le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas froncé le sourcil une seule fois. Il a écouté, il a été patient. Honnêtement, si c'était nous, on aurait mis en avant mille et une choses. On aurait dit que oui, mais son histoire, elle est trop longue. Ou alors, quand est-ce que ça va, elle va s'arrêter, mais elle a une pile alcaline, energizer, c'est pas possible. Jusqu'à quand je vais l'écouter? Je suis en train de perdre mon temps, j'ai d'autres choses à faire. Le prophète, alayhi salatu wa salam, était un prophète, mais c'était également un modèle d'époux, un modèle de mari. Il a écouté Aïcha radhiyallahu anha du début jusqu'à la fin, sans l'interrompre. Ça, c'est un modèle à suivre. De nos jours, qu'est-ce qui pose énormément de problèmes? Et on a eu des cas de jeunes, hein, parfois il y a nécessité de faire des médiations. Parmi les problèmes récents, et ça les anciens ne connaissent pas, parmi les problèmes récents des jeunes couples, c'est un mari qui est en permanence connecté avec son portable. Vous connaissez une femme qui se plaignait de ça, dit mon mari rentre à la case, déjà il travaille depuis le matin jusqu'au soir, quand il arrive, tac tac tac, il est sur son Facebook, il est sur son Twitter, il est sur son WhatsApp, il est camarade avec la moitié du dunya. Il est dans 25 groupes WhatsApp, donc en permanence, on est à table, tic-tac, 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 il est en train de taper, et à un moment donné, la femme, elle n'en peut plus, et ça, c'est une situation réelle, et c'est une situation qui risque de perdurer, de s'empirer, parce qu'avec les progrès qu'ils sont en train de faire, bientôt, il y aura la montre aussi, d'accord? Donc, j'imagine, à table, t'en parler, et tout, Langstein, ça crée des conflits qu'on ne s'imagine pas. La solution, c'est quand on arrive à la maison, on se déconnecte complètement, on fait en sorte de donner du temps. En face de nous, on a une personne qui est présente. Là, tout ça, c'est des amis virtuels, ça. Comme on le dit, vous avez 900 amis sur Facebook, ok, t'as plus de batterie, t'as plus d'amis. La seule qui reste, c'est ta femme qui est là. Le respect, c'est de lui donner du temps et le temps d'écoute, le temps de parler. La femme a besoin de faire le bilan de la journée, d'expliquer tout ça. Ça, c'est l'amour qui se construit pierre par pierre pour gagner la confiance de la personne. Et l'objectif final, Inch'Allah, l'objectif final qui rejoint l'amour pour Allah et l'amour au sein du couple, c'est d'être ensemble dans le Jannah. Et ce verset, on le citera à chaque fois qu'il y a un nikah, inshallah, jannat wa adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. C'est, selon moi, le verset, un des versets les plus magnifiques du Coran. C'est le verset où on décrit les gens qui sont déjà de le jannah. C'est-à-dire qu'ils ont déjà passé toutes les étapes du mahshar, de l'au-delà, mais également, bien sûr, le dunya. Ils sont de le jannah, et là, l'homme retrouve sa femme. L'homme retrouve ses parents. L'homme retrouve ses enfants. Est-ce que ce n'est pas là le bonheur suprême? Est-ce que ce n'est pas là la consécration du bonheur de le Jannah? Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde à tous ce bonheur, cette joie d'un jour d'être de le Jannah et de retrouver nos proches. Mais pour ça, il y a un travail à faire sur notre cœur. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité d'avancer vers lui jour après jour. Et qu'Allah Azza wa Jal t'accorde, Rishad, beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions dans ton couple, ton union avec Hajra, et qu'Allah Rabbul Izzah vous protège de tout ce qui est mauvais, et que jour après jour, votre relation avec Allah Azza wa Jal, elle va augmenter, elle va s'intensifier, et votre amour également au sein du couple va augmenter. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.